Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Vous écoutez le second et dernier épisode de l'interview de Marine Calmé. Ensuite, donc, on entre dans le chapitre de l'affaire Montagne d'Or et tu nous offres là un petit retour historique que j'ai trouvé bienvenu sur le mythe de l'Eldorado et des chercheurs d'or. Ici, quand on pense qu'on emploie ces mots Eldorado, chercheurs d'or, ça nous évoque plutôt quelques vieux westerns. Mais en fait, l'histoire de la Guyane, et finalement, je me suis rendu compte que je ne le savais pas, est marqué par la recherche de l'or.
Ah oui, vraiment, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, ce territoire, il est vraiment dans la main de ces chercheurs d'or, puisqu'il y a, même au niveau local, une caste au pouvoir des grandes familles minières qui, malheureusement, dirigent encore la politique. Et ça, c'est extrêmement marquant quand on arrive en Guyane, c'est-à-dire que, et c'est le cas dans, malheureusement, aussi beaucoup d'autres territoires d'outre-mer, et c'est le reflet, évidemment, de la colonisation. On est arrivé, on s'est implanté, on a créé ces petites baronnies locales aussi pour tenir les populations. Et donc, il y a une sorte d'oligarchie au pouvoir en Guyane, qui a des mines, qui défend la mine et qui ne voit que ça comme modèle de développement pour le territoire. Et donc, c'est vraiment l'histoire successive de la Guyane. Ça a été aussi ces flux en fonction justement des découvertes des nouveaux gisements, des nouvelles techniques d'exploitation. Et puis finalement, on s'est, je trouve, peu demandé quelle était l'autre richesse de la Guyane, quelle était cette richesse verte qui était finalement peut-être l'atout, le seul atout que nous aurions pu exploiter sur ce territoire, à savoir protéger cette richesse naturelle et en apprendre. Parce qu'il y a dans la forêt de Guyane une ressource de savoir inépuisable, autant dans le domaine scientifique, cosmétique, des médicaments. En fait, aujourd'hui, on le sait, il y a très peu de choses qu'on a découvertes sur la Guyane et sur justement la nature et ses écosystèmes. Et il nous reste tout à découvrir. Et quand on voit que le seul secteur qu'on est prêt à développer sur ces territoires, c'est celui qui creuse à coups d'explosifs dans le sol, c'est vraiment extrêmement dur à envisager. Et pourtant, nous, avec le collectif Hors de Question, le problème, c'est que globalement, on se heurte justement à des politiques locales qui sont complètement sourds à un nouveau mode de développement de la Guyane, comme quoi c'est vraiment un culturel, historique. Il y a cette tradition de la Guyane vue comme une ressource en or, c'est l'Eldorado. Et aujourd'hui, évidemment, nous aimerions absolument tourner la page pour que cesse ce mode de pillage du territoire et qu'on passe à un mode de vie qui soit beaucoup plus respectueux du vivant.
Et ça a commencé, l'histoire des chercheurs d'or, là, c'était milieu 19e, c'est ça?
Oui, et puis très récemment, en fait, on a développé des activités qui ont permis, en fait, d'entrer sur le territoire. En fait, il faut voir que cette forêt, elle est tellement dense que d'un certain côté, ça l'a sauvée. C'est-à-dire que c'est tellement difficile de rentrer sur ce territoire avec les grosses machines qui sont nécessaires justement pour creuser la terre que ça a été un frein très concret à l'activité minière et qui est resté plutôt raisonnable quand on compare justement avec d'autres territoires au Brésil, en Bolivie, qui ont été massacrés par les entreprises minières. En Guyane française, le projet Montagne d'Or, c'était le premier projet de cette envergure-là. C'est-à-dire que traditionnellement, parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir un petit ami et une installation légère, si on peut le dire comme
Tami,
ça.
TAMIS.
Oui, un petit ami. Oui,
pour passer l'eau et chercher les
exact.
Petites pépites d'or.
Voilà, c'est plus simple d'avoir un petit matériel qu'on peut porter avec soi et aller dans la forêt trouver un layon, c'est-à-dire un chemin dans la forêt avec un gisement qu'on exploite souvent traditionnellement directement dans la rivière, que de déployer des projets monstrueux comme le projet Montagne d'Or, où il faut 10 tonnes d'explosifs par jour, des camions, des centaines de camions qui font des allers-retours par des routes et toute une infrastructure qui est extrêmement coûteuse. Et donc, pour ce qui était inquiétant dans l'aspect de Montagne d'Or, c'était que c'était un changement d'échelle très, très, quelque chose de très, très différent de ce qu'on avait vu sur le territoire guyanais jusqu'ici. Et donc, évidemment, un très mauvais signal, alors qu'on parle justement de réchauffement climatique et de protection de la biodiversité, c'est une aberration de voir ce projet d'un coup arriver sur ce territoire.
Et justement, est-ce que tu peux nous donner, parce que là, on en parle comme ça, mais pour montrer un peu l'ampleur des dégâts, les chiffres que tu donnes, page 167.
Ah oui, ben, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que donc, en Guyane, donc comme je disais, il n'y avait jamais eu de projet de cette taille-ci. Hein. La plupart des projets sont des projets qu'on dit alluvionnaires, c'est-à-dire de recherche d'or sur les fleuves. Et là, il s'agissait d'un projet terrestre. Donc, on appelle ça de l'or primaire, des filons qui sont dans la roche. Et donc, l'étendue de la fosse, hein, telle qu'elle était annoncée, en tout cas par Montagne d'Or, donc, c'était donc une fosse de 2,5 km de long, 400 mètres de large et 120 mètres de profondeur. À savoir qu'ils n'étaient pas complètement honnêtes et transparents, je pense, sur les chiffres, parce qu'ils variaient quand même régulièrement. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est de la taille de la tour Eiffel. Donc, on aurait pu poser la tour Eiffel dans ce trou béant au milieu de la forêt. Et donc, alors il y avait notamment évidemment les dimensions qui étaient juste monstrueuses, mais évidemment aussi l'impact sur les espèces, puisqu'on parlait de plus de 140 espèces protégées qui vivaient sur le site, puisqu'on se trouve en plus entre deux réserves de biosphère intégrale, donc des réserves qui sont justement fortement peuplées en espèces qui doivent être conservées, et puis des consommations en eau faramineuses, enfin inimaginables, puisqu'on parlait...
Tu mets 470 000 litres d'eau par heure.
Oui, c'est-à-dire que d'ailleurs, même quand on a rencontré les ingénieurs du BRGM, du Bureau des Mines de Guyane, ils n'étaient même pas certains qu'on ait ce genre de ressources en eau sur le territoire pour assumer justement la voracité du site. Donc, c'était vraiment un pharaonique comme projet, et c'est pour ça évidemment qu'on n'avait pas d'autre choix que de s'y opposer et de faire obstacle pour tout simplement avoir, pour protéger le territoire, parce que là, on avait vraiment une industrie rapace qui comptait véritablement dépouiller le site en eau, en biodiversité, et avec évidemment des impacts sur la nature complètement irrémédiables.
Oui, et aussi, tu mets... C'est intéressant, je trouve, de donner ces chiffres parce que ce n'est pas une lubie comme ça, écolo, de gens qui veulent défendre la nature. Ce sont des impacts qui, aujourd'hui, ne sont plus possibles par rapport à là où on en est, du réchauffement climatique, des menaces qui pèsent avec la chute de la biodiversité. Et tu mets un bilan carbone qui équivaut à lui seul à 50% des émissions de gaz à effet de serre du territoire guyanais. La déforestation de 575 hectares de forêts primaires. C'est hallucinant que vous ayez même dû vous battre juste pour faire reconnaître ça et qu'il ait fallu se battre. Ça devrait juste être une évidence, quoi, que ce n'est pas possible. Et à l'heure actuelle, en plus, quoi, avec tout ce qu'on sait maintenant.
Ce qui est drôle, c'est qu'on me le dit souvent, ça. C'est-à-dire, mais c'est quand même bizarre que vous ayez même dû faire quelque chose.
Oui.
Bah oui, je suis d'accord, c'est bizarre. Et pour autant, c'est bien ce que révèle justement ce projet, c'est que d'un côté, il y a des gens qui ne comprennent pas en quoi c'est une aberration et qui nous disaient même que leur projet était extrêmement vertueux. C'est-à-dire, c'était la mine 2.0. On avait les meilleures technologies. C'était quasiment une mine bio, quoi. C'était vraiment... ils s'étaient inspirés des meilleures techniques, d'autres mines responsables. Alors, quand on est allé voir quelle mine ils avaient pris, pour exemple, on s'est rendu compte que ce n'était pas si responsable que ça. C'est ce qui les a perdus aussi dans leur argumentation. C'est qu'en fait... tous leurs arguments pour nous vendre un projet éco-responsable de mines durables, c'était du vent, et ça a été très facile pour nous de le démontrer de ce point de vue-là. Mais il ne faut pas oublier que ce projet, il est quand même né à l'époque du gouvernement Hollande. C'était Emmanuel Macron qui était à Bercy. En France, c'est Bercy qui est responsable du développement des projets miniers. Et à l'époque, M. Macron et son ami Armand Montebourg, avec son ministère du redressement productif, avec un nom déjà en lui-même qui est quand même étrange, ce ministère, il voulait relancer la mine à tout prix. Et donc, on ouvrait grand les portes à ces multinationales pour venir s'implanter sur le territoire. Et c'est pour ça qu'on a dû se battre. C'est parce qu'on a dû se battre contre des personnes qui étaient convaincues du fait que, justement, c'était une bonne chose pour le territoire. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Il disait « Je suis convaincu que c'est une bonne chose pour le territoire. » Et ça, ça montre bien la différence de culture qu'il y a entre, justement, nous, qui nous disions d'entrée de jeu avec le bon sens, d'un citoyen lambda, en fait. Mais c'est une aberration. Personne ne voudrait avoir ça à côté de chez soi. Enfin, c'est une évidence. Et ces gens-là qui nous disent « Mais non, mais c'est très bien. Ça va relancer l'économie. Ça va faire de l'emploi. Alors, soit on va détruire la nature, d'accord, mais ça va être pour le mieux. » Aujourd'hui, c'est cette mentalité-là, en fait, qu'on combat. Il ne faut pas se dire que c'est un projet. C'est un système qu'on combat, et c'est ce système qui repose sur l'exploitation de la nature.
Et donc, c'est le début d'un long bras de fer que tu nous racontes en détail, et je trouve que vraiment, ça ferait le scénario d'une bonne série, une bonne série Netflix.
Hein, j'adorerais.
Il y a tellement de rebondissements. Bah, oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire, là, franchement.
Il y a tellement tout, en fait. Il y a des Indiens, il y a de l'or, il y a des Russes. Je me suis dit,
c'est vrai.
Effectivement, ça ferait une super série.
Avis aux amateurs, aux scénaristes. Mais ça montre aussi des aspects de notre démocratie qui ne sont pas très reluisants. Tant vous rencontrez de mauvaise foi, d'indifférence, de mépris, de volte-face et de réponse ou non-réponse assez incompréhensible, parce que devant les évidences de préjudice à l'environnement et aux êtres humains qui sont sur place, devant les évidences de préjudice que vous identifiez clairement dans les dossiers que vous présentez hein, pour ce projet, on pourrait s'attendre à ce que les instances dédiées à protéger l'environnement en France vous soutiennent. Et en fait, ça n'a pas l'air d'être le cas.
Non, ça n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que tous ces garde-fous qui sont censés garantir justement que les experts puissent faire obstacle à ce genre de projet, donner un avis éclairé, que l'autorité environnementale en France désavoue ce genre de projet sur nos territoires, non, il n'y a eu aucun obstacle. Ils ont déroulé le tapis rouge et c'est uniquement à cause de la mobilisation dans les rues, dans les tribunaux, dans les médias, que nous avons réussi à faire suffisamment de pression pour renverser le rapport de force. Mais je veux dire, c'est 3 années de lutte au quotidien. Il faut imaginer, chaque jour, tout notre collectif était impliqué des personnes qui ont donné 3 années de leur vie juste pour faire tomber ce projet qui est une aberration pour n'importe qui a un esprit sain, à mes yeux. Voilà, c'est, pour moi, ça a relevé du bon sens, comme on l'a dit tout à l'heure, mais pour d'autres, non, pas du tout. Et le problème, ce qui m'inquiète, c'est justement que l'état de notre démocratie aujourd'hui n'est pas capable de faire obstacle à ces multinationales quand elles veulent s'emparer d'un territoire. Et ça, ce n'est pas du tout rassurant. Ce n'est pas du tout rassurant et ça doit vraiment être rapidement changé. Or, ce qu'on observe actuellement, justement, c'est que ce n'est pas le cas.
Oui, et on rappelle que là, tout ce qu'on raconte, ça se passe après les accords de Paris, enfin l'accord de Paris, de la fameuse COP21. Donc, on a quand même pris des engagements par rapport à tout un tas de choses et de ces fameuses émissions de gaz à effet de serre par rapport à, non pas comme on l'a cru dans les années 70 où on voulait faire passer les écolos pour des doux rêveurs et qui empêchaient le monde de tourner rond et surtout l'économie de tourner rond. On sait aujourd'hui qu'il en va maintenant de la survie de l'humanité, puisque sans protéger la biodiversité, sans freiner ce dérèglement climatique qui s'emballe maintenant, c'est la survie de l'humanité qui est en jeu. Et je pense qu'il est toujours bon de rappeler aussi, parce qu'on entend régulièrement, quand on aborde ces sujets-là, des gens nous dire « oui, mais il y a toujours eu des changements d'air géologique, il y a toujours eu des réchauffements et des glaciations », sauf que ça se produisait sur des milliers et des milliers d'années, qu'on n'a jamais eu à un rythme aussi effréné un changement d'air géologique qui en plus, est aussi inédit puisque aujourd'hui, on sait clairement que c'est l'activité des êtres humains qui entraîne ce changement d'air géologique et ce réchauffement climatique. Donc, c'est nous qui le créons. C'est à nous maintenant de freiner tout ça. On se demande, par rapport aux responsables politiques, il y a quand même beaucoup de choses à mettre à jour et de façon vraiment urgente maintenant. Donc, on voit en fait avec ton livre et au travers de ces histoires que tout ce qui se joue est complexe quand même hein, et que deux mondes s'affrontent. Comme tu dis, il y a ceux qui veulent défendre la nature et ceux qui veulent l'exploiter. Et les élus guyanais dont tu parles, eux, défendent le projet Montagne d'Or et accusent le ministère de l'écologie, lorsqu'il prend enfin position contre le projet Montagne d'Or, les élus l'accusent de néocolonialisme. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Oui, alors en fait, ce qui est très intéressant dans cette situation, c'était que je suis allée voir évidemment les collaborateurs de Nicolas Hulot, puisque c'était encore lui à l'époque, en leur disant « Mais comment c'est possible que ce projet soit encore sur la table ? Comment allez-vous nous soutenir ?» Et en fait, ce qui était édifiant, c'était qu'ils prenaient des pincettes avec ce sujet, en nous expliquant qu'évidemment, en interne, ils étaient tous contre et qu'ils trouvaient également que c'était une aberration. Mais que d'une part, ce n'était pas leur responsabilité, parce que eux, c'était le ministère de l'écologie et que les mines d'or, c'était Bercy. Donc, ils essayaient de temporiser un petit peu entre les différentes responsabilités. Et puis, ce qui leur faisait bizarrement très peur, c'était ces élus qui, à chaque fois qu'ils prennent des décisions à Paris, leur disent « mais c'est encore une fois Paris qui décide pour les territoires. Nous, en Guyane, on veut la mine. » Et d'une certaine façon, les priver de cette mine, c'était encore une fois décidé à leur place. Et donc, c'était du néocolonialisme. Moi, ce qui m'inquiète dans cette situation, bah, d'une part, c'était qu'on tombe dans ce sketch parce que c'est complètement aberrant. Alors, évidemment, ça serait mieux que ce soit les Guyanais qui décident pour eux. Le problème, c'est comme je vous l'ai dit, il faudrait que ce soit les Guyanais qui décident, sauf qu'on a une oligarchie locale qui a pris le pouvoir et qui se sert dans les richesses du territoire et que ça ne profite pas aux gens qui vivent sur ce territoire. D'ailleurs, quand à la sortie du débat Montagne d'Or, on a fait un sondage sur la vie des Guyanais, 70% des personnes qui vivent en Guyane se sont exprimées contre le projet. Et donc, en fait, ce jeu de dupes, justement, de ces élus qui braillent en disant « Non, mais c'est encore du néocolonialisme, c'est Paris qui décide à notre place », c'est vraiment pathétique de rentrer dans ce schéma, de tomber dans ce piège. Parce qu'en fait, eux, ils défendent leur chapelle, ils défendent leur profit personnel, ils sont tous justement de mèche avec ces industriels. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on cesse de prendre ces gens-là avec des pincettes. C'est vraiment une caste qui vient du siècle dernier, qui se maintient au pouvoir. Et aujourd'hui, il faut, et j'espère peut-être aux prochaines élections qui arrivent bientôt, justement qu'il y ait un vrai changement pour le territoire. J'espère que justement les Guyanais vont se souvenir dans ces élections de qui leur a fait subir ça. Montagne d'Or, les mines, les pollutions que ça implique, Total. Enfin, je veux dire, le président de la collectivité territoriale, il a quand même vendu son territoire pour 3 millions d'euros. 3 millions, c'est même pas de quoi construire un collège. Et il a laissé Total commencer à forer au large de la Guyane avec un chèque de quelques millions d'euros à peine, tout ça pour acheter le silence de ses concitoyens, avec tous les risques de marée noire que ça comportait, et plus globalement le fait qu'il n'y ait absolument eu aucun débat sur le projet de Total, parce que l'État, encore une fois, a laissé faire. Et donc, il y a une vraie question de la crise démocratique dans ces territoires-là, où si on veut vraiment redonner du pouvoir et sortir du néocolonialisme, alors dans ce cas-là, il faut faire de nouvelles institutions qui soient puissantes et qui représentent les personnes qui vivent sur ces territoires, qui sont à la fois les premières victimes, mais aussi les meilleurs témoins de ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la crise climatique et le changement de la biodiversité. Donc, pour moi, ça a été très, très choquant, très violent d'observer ces magouilles en coulisses. Et c'est pour ça aussi que je voulais absolument raconter dans ce livre, parce que quand on lit juste la presse, Il y en a eu beaucoup, des articles sur Montagne d'Or. On a un peu l'image. Alors, on suit les différents échelons. Ah, Macron a dit que c'était oui. D'un coup, finalement, c'est plus non. Ah, puis, il y a un procès, puis il y a un débat. Bon, OK. Mais on n'a pas les coulisses de ce qui s'y passe vraiment et de ce que c'est pour nous, les militants qui sommes en première ligne. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont vraiment les négociations? Quels sont les tenants et les aboutissants de pourquoi ça bloque? Et je pense que justement, en racontant un peu tout ça, je voulais illustrer en fait ce qu'il y a de plus profondément de mauvais en fait dans notre construction démocratique et puis justement cette culture de la prédation de la nature qui s'exprime aussi à travers ces personnes qui défendent ces positions qui sont aujourd'hui intenables vis-à-vis de la nature. Et donc, raconter les coulisses, ça me permettait en fait de faire un journal de bord, d'illustrer des idées sans faire un grand livre théorique justement parce que je voulais que ce soit accessible pour tous. Et en fait, Montagne d'Or Total, c'est comme une métaphore. C'est tellement symbolique de ce qui arrive à notre planète, c'est tellement le symptôme de notre société que pour moi, je l'ai filé comme une métaphore à travers le livre où je raconte ces histoires pour mieux illustrer ce qui ne va pas et ce qu'il faut changer. Et c'est vraiment une façon aussi de rendre ces théories accessibles et en même temps aussi de rendre hommage à tous les militants qui ont consacré leur vie à faire tomber ce projet imaginé justement dans les bureaux de Bercy, au bureau d'Emmanuel Macron.
On sent aussi d'ailleurs assez bien les contradictions qui se jouent au sein du ministère et que devait gérer Nicolas Hulot, puisqu'il vous parle à un moment de l'organisation d'un sommet des peuples racines, expression que tu n'apprécies pas trop d'ailleurs, les peuples racines. Donc il vous parle de ça et puis finalement ça fait flop, il n'y a rien du tout qui en sort. Et en fait là on parle des forages offshore de Total et de Montagne d'Or un peu tout mêlé parce que le livre est écrit, parce que les deux histoires sont passé. Mais en fait, dans la chronologie de l'histoire, tu es en train, avec tous ceux qui t'accompagnent, vous êtes en train de vous battre par rapport à l'histoire de Montagne d'Or. Il devrait y avoir ce sommet des peuples racines. Et en fait, non seulement il n'y a pas le sommet, mais là, dans la chronologie, en fait, en plus, vous apprenez que Total se lance dans ce projet de forage. Mais franchement, il faut garder le moral quand même. Hein.
Ça a été extrêmement dur.
Il n'y a pas des moments où vous aviez envie de tout abandonner et de partir sur une île déserte.
Ça a été franchement très dur parce qu'on était épuisés. Des mois de... En fait, pour Montagne d'Or, on s'était vraiment dit qu'on serait sur chaque événement public, on informerait la population, qu'on donnerait les éléments scientifiques, techniques à tout le monde parce qu'il fallait que les gens sachent ce qu'il y avait vraiment derrière ce projet et que Montagne d'Or, sinon, arrivait avec sa petite vidéo de promotion et que c'était, enfin, qu'il n'y avait plus de débat, quoi, qui confisquait le débat. Et donc, on était tous les soirs ailleurs. On avait notre hamac, on le mettait dans la voiture et puis on allait le pendre dans un autre village. Et tous les soirs, on finissait à 22h en remballant nos petites affaires, en allant nous coucher dans nos petits cocons. Et ça a été très dur physiquement, mentalement, parce que tous les jours, il fallait redire la même chose, s'opposer au même greenwashing de la part de l'industriel. Et donc, forcément, quand on a appris que Total arrivait également, ça a été extrêmement dur de repartir. D'ailleurs, tout le monde n'a pas réussi à s'impliquer dans les deux. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Ah non, moi, Montagne d'Or, je finis Montagne d'Or et ensuite on verra. » Et on a été un tout petit nombre au début, on était trois. Donc, je raconte avec Pascal et Claire, on a monté donc, ce collectif Stop Pétrole Offshore Guyane et progressivement, d'autres citoyens sont venus justement et ont commencé à militer avec nous. Et puis au final, dans les médias, ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est que dans les médias, on en a parlé très rapidement parce qu'on était en pleine préparation de la COP et qu'il y avait ce bateau de forage qui filait droit vers la Guyane pour venir chercher du pétrole. Et le gouvernement avait apparemment pas la même appréhension du sujet que nous, puisque nous, on était scandalisés et eux ne voyaient pas le problème.
Et là, mi-juillet, par rapport à cette histoire-là, il y a quand même des grandes ONG importantes, reconnues, qui vous rejoignent.
Alors oui, on a été beaucoup soutenus évidemment par Greenpeace aussi qui faisait justement des repérages dans la zone parce que en fait, il faut bien voir que ces projets pétroliers, ils arrivaient sur une zone qui est très très mal connue par les scientifiques, mais qui constitue un récif en fait d'une taille extraordinaire puisqu'il court apparemment du Brésil jusqu'au Venezuela, peut-être même plus loin, avec en fait une sorte de corridor écologique qui relie du coup tous ces océans dans lesquels les animaux peuvent venir du coup se reproduire, être protégés, et donc ça paraissait évidemment une aberration d'aller planter des puits dans un endroit comme celui-ci. D'ailleurs, ce qui était effarant, c'est que le Brésil, avec les institutions qu'on connaît, hein, au Brésil, a lui réussi à tenir tête à Total. C'est-à-dire, quand ils ont vu arriver ce dossier, l'IBAMA, qui est leur ministère, en gros, de l'environnement, a dit, mais c'est hors de question de vous laisser forer dans cette zone à cause du récif de l'Amazone, mais aussi à cause des espèces protégées et puis des risques, parce que c'est une zone qui est extrêmement profonde, avec des courants extrêmement forts. Et on n'avait pas envie de répéter le scandale d'il y a quelques années, où justement une plateforme de forage pétrolier avait explosé dans le golfe du Mexique. Et en France, le dossier est passé comme une lettre à la poste, et en quelques mois, Total était déjà en train de forer. Donc pour vous dire à quel point on était évidemment scandalisés de voir ce sujet sur la table, et puis aucune instance d'expertise, notamment sur les espèces protégées, comme le comité de protection de la nature, n'avait été saisie. Les instances censées garantir le débat public, comme la Commission nationale du débat public, n'avaient pas été saisies. En gros, Total était dans la plus claire illégalité, mais le gouvernement a complètement laissé faire, alors qu'il avait pleinement conscience des vices de procédure. Et même le juge, hein, puisqu'après on est allé avec Greenpeace saisir la justice, même le juge ne nous a pas donné raison. Et donc, ça a été... c'est comme une trahison pour nous. Parce que ça veut dire que finalement, nous qui sommes sur le territoire, nous ne pouvons pas faire confiance aux règles de la République, nous ne pouvons pas faire confiance aux institutions censées nous protéger. Et c'est pour ça qu'aussi j'en suis venue à développer cette théorie des gardiens, qui sont pour moi quelque chose... C'est transcender justement le rôle de citoyen, parce que pour moi, le citoyen, c'est aussi celui qui se tient en règle, qui va voter, qui est dans un schéma assez classique, en fait, de rôle au sein de la société. Et pour moi, le rôle de gardien, c'est au contraire celui qui remet en question ces règles, qui les combat quand elles sont injustes et qui ne s'y tient pas, justement, si elles sont dangereuses, notamment pour la nature, parce que notre rôle, ce n'est pas juste, justement, d'envisager notre existence à travers ce prisme actuel, ce rôle d'électeur et puis individualiste, mais au contraire ce rôle de gardien, et je le dis au pluriel parce que de faire groupe, de faire corps, de protéger la nature, les communs. Et donc c'est vraiment cette théorie, grâce à ces deux exemples, Montagne d'Or et Total, mais aussi l'exemple de la Convention citoyenne et des luttes pour la reconnaissance du crime d'écocide, que je tente d'illustrer qu'est-ce que ça veut dire devenir gardien de la nature, comment on crée un nouveau système grâce à ce nouveau rôle au sein de notre société.
Et donc, le 28 août, Nicolas Hulot démissionne de façon fracassante, on s'en souvient, du gouvernement, et tu cites ses propos à l'époque dans Le Monde, où il répond aux journalistes par rapport à ce qui vient de se passer, et où il dit « On s'évertue à entretenir un modèle économique cause de tous ces désordres climatiques. Nous faisons des petits pas, et la France en fait beaucoup plus que d'autres pays. Mais est-ce que les petits pas suffisent ? La réponse, elle est non. » Et en fait, justement, donc je t'en parlais en off, Muriel Dourru et Nicolas Hulot viennent de sortir un livre sous forme de bande dessinée dont le titre est « Les petits pas ne suffisent pas ». Et ce qui m'a étonnée, c'est que, en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans ton livre, on se dit, mais qui, puisqu'il y a beaucoup de choses assez opaques, en fait, ou de décisions et de volte-face, où on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, on ne saura sûrement jamais pourquoi, de choses qui se jouent en coulisses, d'intérêts, de jeux d'influence, et on se demande qui influence qui et qui gouverne. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez dingue de lire simultanément cette bande dessinée là de Nicolas Hulot et Muriel Dourru qui revient sur beaucoup de choses des coulisses de ce qu'il a vécu dans cette histoire au gouvernement, et où lui à un moment est dessiné dans un bureau, là c'est à la période où on arrive à la fin, peu de temps avant sa démission, où il y a toute cette histoire avec le lobby des chasseurs et tout ça, et à un moment il est tout seul et il y a une des bulles de la bande dessinée où il se dit mais en fait mais qui gouverne ? Et je me suis dit, mais en fait, c'est quand même incroyable que, bon, que nous, à notre niveau, on se pose la question par rapport à ce que tu racontes, à ce que, voilà, on se dit, bon, ben, on est citoyen. Que lui, là où il est, se pose cette question. Et pour moi, de le lire, ça faisait comme un effet miroir par rapport à ce que j'étais en train de lire de ton livre, que j'ai terminé hier soir, donc c'était tout frais aussi. Et ça m'a laissé assez perplexe, quoi, pour ne pas dire plutôt très inquiète. Et pour revenir à l'aspect démocratie dont tu parlais, ça nous montre clairement que nous avons besoin aussi d'un droit, comme tu le disais, qui soit complètement mis à jour. Quelles évolutions toi et ceux qui t'accompagnent souhaiteraient là aujourd'hui?
Alors, évidemment, en Guyane française, nous demandons l'abandon définitif de toute forme d'industrie minière sur le territoire. C'est-à-dire que, étant donné qu'on part du constat que c'est incompatible avec la protection du climat et de la biodiversité, oui, la question, en fait, ne devrait même plus être si difficile que ça à trancher. C'est pour ça que, aux côtés aussi de la Convention citoyenne pour le climat, nous avons réclamé l'abandon définitif de toute forme d'industrie minière sur le territoire amazonien. Et plus globalement, nous demandons un renforcement des droits de la nature, c'est-à-dire des droits intrinsèques des écosystèmes en tant que sujet de droit pour que justement on sorte de cette vision de la nature objet et donc forcément qui peut être accaparée, détruite, polluée pour répondre aux besoins parfois pas du tout fondamentaux des êtres humains. Et donc ça, c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde avec la reconnaissance de droits des écosystèmes en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Équateur, en Bolivie, dans de plus en plus d'États aujourd'hui dans le monde. Et puis, on s'est beaucoup battu également ces derniers mois avec mon association Wild Legal et les 150 citoyens de la Convention pour la reconnaissance du crime d'écocide. Ce nouveau crime, justement, pour mettre fin à l'impunité de ceux qui mettent en danger la conservation des écosystèmes et qui, comme en Guyane française, mais aussi sur d'autres territoires, je pense aux algues vertes en Bretagne, au chlordécone dans les Antilles, au bout rouge au large de Marseille, ces industriels qui détruisent la nature et qui mettent en danger, en fait, les générations futures, à la fois les générations humaines, mais aussi non humaines. Et donc, nous, évidemment, nous passons maintenant par ce plaidoyer pour un changement complet, justement, de paradigme juridique, mais donc aussi politique et social, pour transformer notre manière d'être au vivant. Et donc, c'est un combat que je mène maintenant depuis que, heureusement, le projet Montagne d'Or est un peu en stand-by, que Total et son bateau monstrueux sont repartis. Et c'est vraiment pour ça qu'à travers ce livre, j'essaie d'expliquer quels seraient aussi les enjeux, non seulement évidemment de reconnaître des droits à la nature, de renforcer notre droit, mais aussi de faire des citoyens les premiers acteurs de leur avenir en devenant gardiens de la nature, parce qu'en fait, la nature, elle, n'ira jamais se défendre dans les tribunaux. C'est vraiment à nous de la représenter dans les associations, dans les institutions, dans les tribunaux, de faire en sorte que ses intérêts soient protégés. Et donc, ça demande évidemment un changement complet de société, un nouveau statut pour moi de gardien, comme c'est le cas dans nombreux États. En Colombie, on rencontre les gardiens du fleuve Atrato, mais il y a aussi en Nouvelle-Zélande avec les gardiens maoris du fleuve Whanganui. Il y a de nombreux États déjà qui ont reconnu d'autres formes de représentation de la nature. Et pour moi, c'est une belle recherche justement de renouvellement de nos institutions, puisqu'on l'a vu, les institutions censées garantir la protection de nos écosystèmes ont failli à de multiples reprises et de manière systémique et pas uniquement occasionnelle. Et donc, il faut en tirer les conclusions. Qui sont les gardiens, les meilleurs gardiens de la nature aujourd'hui? Ce sont les associations qui sont le dernier rempart aujourd'hui face souvent à l'État, malheureusement, qui est du côté des industriels, comme on l'a vu avec Total et Montagne d'Or, et qui ne garantit plus justement notre avenir et la protection des générations futures. Et donc, il est absolument indispensable qu'en prenant en considération cette situation actuelle, on fasse plus de place, on donne plus de pouvoir aux citoyens qui, à travers ce statut des garants, pourraient enfin avoir une place aussi nouvelle au sein de notre société et revoir du coup évidemment le fonctionnement de nos institutions. On l'a vu avec la Convention citoyenne, placer les citoyens dans une situation de responsabilité, les éduquer aussi, les former aux questions, là c'était du climat, mais ça peut être de n'importe quelle question qui touche à la nature, ça transcende les clivages gauche-droite, ça transcende les différents groupes sociaux, les appartenances sociales. C'était des citoyens qui venaient de tous les horizons politiques et sociaux différents et qui ont été capables de travailler ensemble pour trouver des réponses en se fiant à la science et en se fiant évidemment aux objectifs qui étaient ceux d'atteindre donc le respect des engagements de l'accord de Paris. Aujourd'hui...
Toi-même, au début, tu n'y croyais pas à cette convention, tu le racontes.
Non, je n'y croyais pas parce que je me suis dit, mais attendez, mais il y a déjà plein de scientifiques quand même qui ont tracé des scénarios. Et en même temps, maintenant, avec le recul, je me dis, c'est dur de se dire, j'y ai voulu y croire, j'y ai cru, et je crois encore que c'était un moment absolument essentiel parce qu'il a aussi été une prise de conscience pour les citoyens qu'on n'était pas obligé de faire uniquement de la manière dont on a fait jusqu'ici avec des parlementaires qui, dans les couloirs ou à l'Assemblée, votent des lois comme leur dicte le gouvernement, mais qu'on pouvait aussi replacer les citoyens dans une position de responsabilisation où c'est lui qui est en force de proposition. Donc, malheureusement, on a été trahis jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Peut-être qu'on n'aurait jamais dû y aller, mais si on n'y était pas allé, alors on n'aurait pas su que c'était possible, on n'aurait pas vu qu'on pouvait justement dépasser ces clivages se poser des vraies questions. Et donc, j'ai été très heureuse de travailler avec eux parce que je me suis trompée, parce que j'ai vu que justement, au contraire, c'était une machine formidable d'émancipation pour ces citoyens et que ça a vocation à être répliqué, à être même modifié, amélioré pour ressembler justement à nos pratiques dans les territoires. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ça la traduction des enseignements de la Convention citoyenne. Un enseignement, c'est ne jamais faire confiance, ne plus faire confiance à ce gouvernement. Deuxième enseignement, c'est vraiment réfléchir en dehors des cases, imaginer de nouveaux modèles démocratiques, les adapter à nos sociétés dans les territoires et faire en sorte justement de retrouver un modèle de gouvernance avec la nature où les citoyens deviennent gardiens. Parce que c'est ce qui m'a plu aussi en travaillant avec eux, c'est qu'ils ne sont pas arrivés là justement en gardiens. Ils sont devenus des gardiens à travers leur apprentissage. Et ça, c'est très intéressant.
C'est
ça que
j'ai trouvé intéressant aussi, c'est cette évolution et l'impact de l'information, en fait.
Voilà. Et en fait, ça montre bien qu'on ne naît pas gardien, on devient gardien. Et à travers mon livre, je propose un cheminement. Alors, je raconte le mien, mais j'espère que ça peut justement en inspirer beaucoup d'autres. Et c'est pour ça que, justement, c'est un livre d'anecdotes, de récits qui peut, j'espère, donner envie à tout le monde de se lancer dans des luttes, dans la construction de modèles différents, parce que c'est à la portée de chacun. Et donc, c'est une recherche perpétuelle d'amélioration, de découverte, de curiosité vis-à-vis de la nature. Et comme les citoyens de la Convention citoyenne, c'est un modèle aussi dans lequel on se réapproprie notre avenir. Et ça, pour moi, c'était très important.
Et alors, page 145, tu écris « Après ces deux années au chevet des luttes contre les projets miniers en Guyane, le constat est sans appel, le droit de l'environnement actuel ne nous a été d'aucune utilité pour faire face aux excès des projets de la compagnie Montagne d'Or et de Total. Et donc, dans cette dynamique de chercher à créer de profonds changements de société et après avoir constaté les failles du système, vous réfléchissez à de nouveaux moyens à mettre en œuvre pour faire bouger les choses et vous créez l'école des droits de la nature. Je dis vous parce que vous êtes plusieurs. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment vous vous êtes rencontrés et de quoi s'agit-il, cette initiative ?
Alors, Wild Legal, donc cette école des droits du sauvage, on pourrait le traduire comme ça, c'est né en fait de parcours différents. C'est une époque de ma vie donc, où je suis revenue en métropole et puis j'ai retrouvé Valérie Cabanne avec qui j'avais travaillé déjà quelques années auparavant et qui travaille sur la reconnaissance du crime d'écocide devant la Cour pénale internationale.
Que j'ai interviewé. J'invite les auditrices et auditeurs à aller écouter ce podcast qui est très complémentaire par rapport au tien aussi.
Très bien. Voilà, on s'est évidemment retrouvés autour de sujets communs. Elle aussi avait très envie d'avoir une école pour faire connaître ses enseignements, cette nouvelle vision justement du droit et de la relation à la nature. Et puis, avec différents autres acteurs aussi, comme William Bourdon, qui est un ponte du barreau de Paris, justement, notamment c'est illustré à travers des combats très forts pour la protection des droits humains et récemment encore puisqu'il défend Raoni face à Jair Bolsonaro auprès de la Cour pénale internationale. Et en même temps, d'autres personnes comme Simon Rossard, avec qui nous avons donc cofondé le projet, qui lui avait un parcours assez, qui a un parcours assez atypique puisqu'il a une formation de juriste, mais aujourd'hui il oui. travaille dans l'art et qui avait travaillé sur, enfin vécu déjà des moods courtes, des procès simulés justement durant sa formation et qui nous a exprimé du coup le souhait d'utiliser ces procès simulés qui sont notre outil aussi pour faire travailler les jeunes au sein de notre époque, de notre école pardon, pour en faire des futurs avocats des droits de la nature. Et donc cette association en fait aujourd'hui elle repose vraiment sur une sorte de triptyque, c'est-à-dire à la fois cette formation des élèves grâce à des procès simulés, mais aussi du coup des actions qui sont nourries par ce travail fait par les étudiants et l'association pour venir directement aider des luttes locales, et puis un aspect évidemment de sensibilisation du grand public puisqu'on donne énormément de conférences en forme grâce à notre petit manuel des droits de la nature, on diffuse ces savoirs et on fait en sorte que justement le plus grand nombre se saisissent de cet outil juridique qui est en fait avant tout un outil qui est à la portée des citoyens puisqu'on construit du droit. Nous aussi on est dans cette démarche de justement s'affranchir du droit existant, actant qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux de notre siècle, il ne répond pas à nos besoins. Voilà, on a acté cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on crée demain pour faire face et pour du coup envisager de nouvelles solutions? Et donc, cette année, par exemple, on travaille sur l'utilisation du crime d'écocide dans un cas qui existe déjà, c'est celui de la pollution au Bout Rouge au large de Marseille, une pollution industrielle qui date des années 60 et qui a complètement dévasté l'écosystème au large des calanques de Cassis. Et on fait travailler nos étudiants.
Qui est toujours en cours, non ?
Alors aujourd'hui, il n'y a plus de boues qui sont rejetées par les industriels, mais des effluents chimiques qui sont toujours des contenances en produits toxiques qui sont évidemment néfastes pour les écosystèmes. Et puis une destruction, en fait, les écosystèmes ont été ensevelis. On parle de 32 millions de tonnes déversées directement dans la Méditerranée, comme si cet écosystème était notre poubelle, en fait. Et donc, on fait travailler nos étudiants sur ce cas qu'on a constitué avec notre association partenaire ZEA. Et ils planchent, comme le ferait n'importe quel avocat, sur des mémoires qu'ils écrivent et des plaidoiries qu'ils vont tenir pour justement défendre à la fois donc dans le rôle des avocats des associations, mais aussi dans le rôle de l'industriel, puisqu'on fait toujours en sorte aussi de montrer les points d'achoppement, les arguments qui sont aujourd'hui utilisés par les industriels pour justement se défausser de leurs responsabilités. Et nous, on montre à quoi servent du coup les droits de la nature, le crime d'écocide, pour obtenir justice pour les victimes humaines et non humaines. Et donc, on sera notamment, on organisera un événement retransmis en direct le 26 juin prochain. Ça sera la finale de ce procès simulé, justement avec les différents experts du sujet et nos étudiants. Donc, puisqu'on a une promotion de 20 étudiants cette année qui ont travaillé tous sur ce sujet et qui donc arrivent à la fin de leurs travaux et qui vont nous montrer le meilleur d'eux-mêmes. Donc, je vous invite à regarder ça. Ce sera sur la page Facebook de Wild Legal et ça sera visible, tout comme vous pouvez déjà revoir le procès simulé pour les droits de l'Amazonie guyanaise que nous avons diffusé l'année dernière et qui est pareil un grand procès aussi face à l'orpaillage illégal pour mettre la France face à sa responsabilité, la France qui n'a toujours pas mis un terme justement aux destructions causées par l'orpaillage illégal sur son territoire. Et donc on montre, en fait c'est comme une fenêtre vers l'avenir, c'est-à-dire à quoi ça sert concrètement? Est-ce que c'est juste une théorie, ces droits de la nature, l'écocide? Quels sont les enjeux concrets? C'est ça qu'on essaye de démontrer. Qu'est-ce que ça va changer dans notre société? Quels sont les bouleversements que ça va induire de justement adopter ce nouveau paradigme où l'humain fait partie de la nature? Et donc, on le montre à travers des cas très concrets qu'on illustre. Et donc, c'est à la portée de tous, justement, ensuite, une fois qu'on a compris la théorie, d'en faire la pratique dans ses propres luttes sur son territoire et de devenir gardien de la nature, du coup.
Oui, il y a beaucoup d'outils, en fait. Vous mettez beaucoup d'outils à disposition entre le livre, les pistes, des initiatives concrètes et des idées. Vous en avez beaucoup, en fait. Et par exemple, j'ai aussi noté la création d'une nouvelle instance, la Haute Autorité des Limites Planétaires. Ce sera intéressant,
oui.
ça. C'est juste sur le papier ou est-ce que vous vous battez pour que ça voie le jour ?
Bien sûr, on travaille aussi avec des scientifiques pour que ça voie le jour. En fait, on part du constat qu'aujourd'hui, on a des instances, donc comme on l'a dit, qui sont clairement défaillantes, aussi parce qu'elles ne sont incapables d'apprécier l'effet cumulé des activités humaines sur nos territoires. Et donc, en fait, aujourd'hui, les scientifiques ont établi 9 limites planétaires qui, justement, si on les dépasse, ont comme un effet domino les unes sur les autres. On le voit par exemple avec le changement climatique. Le changement climatique a pour conséquence aussi la disparition de la biodiversité, la transformation de l'usage des sols, le bouleversement du cycle de l'eau, énormément de
la
conséquences.
La montée des eaux.
L'acidification des océans, en fait. On voit un effet domino du fait de ces dépassements de seuil, en fait, du fonctionnement des écosystèmes. Et donc, à nos yeux, il faut aujourd'hui instaurer une nouvelle autorité centrale, supraministérielle, donc qui guide le travail de l'ensemble des ministères et pas uniquement une instance rattachée justement au ministère de la Transition écologique, parce qu'aujourd'hui, notre transition, elle se joue dans tous les ministères à la fois, que ce soit le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Transition écologique, bien sûr, mais on le voit bien à Bercy également. Et donc, il faut une instance qui chapeaute d'une certaine façon ce travail pour que demain les activités humaines soient bien en deçà du plafond des limites planétaires pour garantir que nos activités soient pérennes, ne mettent pas en danger l'habitabilité de notre planète. Et donc cette haute autorité des limites planétaires, son objectif est en fait de réunir des scientifiques de toutes ces matières qui nous permettent d'avoir une vision panoramique et d'analyser à travers leur expertise nos lois, nos règlements et nos programmes pour être sûr qu'ils sont bien en accord avec le fonctionnement des écosystèmes. Et aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est que pour les citoyens, c'était une évidence. Quand on a abordé ce sujet avec eux, ils ont pris ça évidemment immédiatement comme une très bonne idée parce qu'ils se disaient mais ça, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas déjà aujourd'hui en fait, pourquoi est-ce que personne ne nous guide justement pour rester en dessous de ces limites planétaires si on sait que c'est dangereux de les dépasser, et aussi pour guider le législateur, l'État, parce qu'aujourd'hui on le voit dans la balance, quand les industriels arrivent avec des projets comme Montagne d'Or et Total, qui tire la sonnette d'alarme ? Malheureusement, personne. Et donc, c'est absolument nécessaire de mettre une nouvelle instance qui soit forte. Aujourd'hui, les instances, elles sont consultatives. On ne tient pas compte de leur avis. Parfois, on ne les saisit même plus. Demain, il nous faut un défenseur des droits de la nature, une haute autorité des limites planétaires, une chambre du futur, comme disait Nicolas Hulot. Appelons-le comme on veut, mais il nous faut aujourd'hui une instance qui soit basée sur la science et qui puisse enfin poser un nouveau cadre en fait pour nos activités, pour garantir que nos enfants aient un avenir viable et qu'on se trouve avoir des consignes claires en fait en matière justement de développement de notre société, c'est-à-dire qu'on aille progressivement vers cette réduction des émissions de gaz à effet de serre avec des objectifs contraignants, des actions contraignantes et un suivi régulier, et pas justement comme le fait actuellement le gouvernement d'Emmanuel Macron, qu'on revoie nos objectifs à la baisse quand ça nous arrange donner l'impression qu'ensuite on atteint le bon résultat. Non, ça c'est vraiment choquant aujourd'hui et on ne doit plus justement laisser notre avenir dans la main invisible du marché, la main des politiques qui, on le voit, ont échoué à nous protéger dans cette situation.
Il y a beaucoup de chantiers en cours. Hein. Est-ce que j'en ai oublié ? Est-ce qu'il y a des... Avant de terminer, est-ce que tu es sur d'autres chantiers importants qui te sembleraient importants de mentionner ?
Non, je pense que ça fait déjà pas mal.
Oui, moi aussi, je trouve que ça fait déjà pas mal. Donc, un grand, grand merci déjà pour ce temps que tu nous offres et que tu nous consacres aux auditrices et aux auditeurs de Sauce Planète pour expliquer dans le détail ce que tu racontes de façon beaucoup plus complète dans ton livre et puis aussi ton vécu. Donc, je rappelle le titre du livre « Devenir gardien de la nature » de Marine Calmé. C'est aux éditions Tana. Et je me disais qu'on pourrait peut-être conclure sur les mots d'Albert Einstein que tu cites à la fin du livre. Est-ce que tu voudrais nous les dire ?
Oui, effectivement. Donc, pour clore alors cette interview, c'est vrai que les mots d'Albert Einstein sont très à propos. On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré, alors n'ayons pas peur de tout changer.
Voilà. Donc, toi, c'est déjà ce que tu fais depuis un bon moment. Merci pour ça. Merci de te battre pour nous tous, en fait.
Oui, c'est, c'est devenu une raison de vivre. J'espère que justement, c'est aussi pour les jeunes, ça sera une source d'inspiration d'être toujours plus nombreux au sein de l'association Wild Legal. On est extrêmement nombreux et surtout, on est extrêmement ouverts à d'autres personnes qui viendraient et qui voudraient s'investir bénévolement à nos côtés. Et donc, surtout, si ces sujets vous parlent, si ce message, vous aimeriez aussi en faire le vôtre, n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous mobiliser à nos côtés, évidemment.
Et il y a un site internet aussi sur lequel les auditrices et auditeurs pourront en savoir beaucoup plus et vous suivre et avoir plein d'informations sur tout ce que vous faites et puis même participer s'ils en ont envie. Tu décris d'ailleurs très bien aussi à la fin du livre des mises en garde par rapport à pourquoi on s'engage. Tu mets en garde par rapport au fait de prendre soin de soi aussi. De soi et des gens qui nous sont proches et voilà, ça peut être une course effrénée aussi hein, quand on prend conscience des difficultés dans lesquelles on est sur la planète. Évidemment, si on a envie de s'engager, ça peut être très très chronophage et on peut mettre en péril en fait beaucoup de choses. Donc c'est important d'essayer de garder cet équilibre et de pas sacrifier soi-même, parce que voilà, le respect du vivant, c'est notre vivant aussi. Nous sommes le vivant aussi.
Oui, voilà. Faut vraiment trouver cet équilibre au fond de soi, avec les autres, et puis du coup, avec la nature. Et c'est un vrai cheminement. D'ailleurs, pour beaucoup de peuples autochtones, il y a cette idée que on devient humain quand on apprend à soigner la nature. Et notamment chez les peuples autochtones de Guyane, on devient adulte à travers justement cet enseignement des savoirs de la nature, cet apprentissage, et surtout ce savoir-être en commun. Et donc, je pense que c'est aussi ce cheminement et un peu ce passage à l'âge adulte que j'essaye de raconter dans mon livre, parce que pour moi, ça a été vraiment un passage à l'âge adulte de traverser ces différentes étapes. Et donc, par ce rite d'initiation qui a duré plusieurs années, j'espère pouvoir donner envie justement à d'autres de s'engager.
Eh bien, écoute, un grand merci à nouveau. Je vais mettre le lien dans la description du podcast, hein, que vous écoutiez ce podcast sur le site de Sosuite Planète. Et si vous écoutez sur une application de podcast, vous regardez la description de cet épisode et vous aurez aussi le lien vers le site de Wild Legal et le lien, évidemment, pour acheter ce très beau livre aussi. Voilà.
Merci beaucoup.
Bonne continuation.
Merci.
Peut-être à une prochaine, après de nouvelles aventures et de nouvelles victoires, j'espère. Merci. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de Sosuite Planète, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page Sosuite Planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosuiteplanète.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sosuite Planète mis en ligne. À bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.